Ce que je voudrais dire et rebondir de suite devant, après ce que vous venez de dire, c'est dire que nous, conservateurs, puisque je vais parler moi comme conservateur et comme directeur en fait d'une institution qui tend à ouvrir au public, c'est quand même notre définition en tant que musée, l'art théâtral à travers des témoins matériels de cet art théâtral. Donc, nous sommes, nous, directement aussi confrontés à la matière, hein, comme le sont les artistes. Nous sommes, nous aussi, comment dire, gardiens de, d'un patrimoine qui nous est échu avec des histoires multiples et variées. C'est-à-dire que non seulement on a des objets, donc de matière, vous en connaissez l'origine puisqu'on en a parlé ce matin, de matières extrêmement variées, de techniques extrêmement variées, mais nous avons en plus à gérer des collections qui sont entrées au musée avec des histoires qui leur sont propres et qui les ont déjà, j'allais dire, façonnées. Et nous héritons de tout cela pour, et je l'ai fait sciemment, pour essayer de montrer ce qu'est, je dis bien essayer de montrer ce qu'est le théâtre de marionnettes. Ce qui veut dire que nous sommes là pour montrer l'objet marionnette, mais nous sommes là pour essayer de restituer la totalité des aspects théâtraux de ce type de théâtre. Ce qui veut dire en termes clairs que tout ce qu'on a évoqué ce matin quand on parlait de dissonance, par exemple des sons, c'est aussi tout ce qui est musique qui accompagne la représentation. On parlait du rôle de la lumière. C'est ce qui va, là aussi, contribuer au spectacle, la mise en scène, les textes qui sont derrière le théâtre. Et puis, fondamental pour le théâtre, le rapport au public. Il ne peut pas y avoir de théâtre sans public. Donc, c'est cette diversité des aspects du théâtre de marionnettes que nous allons avoir à présenter à un public qui est un public de musée, c'est-à-dire qui est plus ou moins habitué à une pratique qui est une pratique déambulatoire du discours. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qui est pour nous notre tâche et qui va donc nous amener, et c'est le cas avec le musée donc Gadagne, qui est à la fois donc le musée des marionnettes du monde, qui est aussi et surtout le musée d'histoire de Lyon, le tout dans un édifice Renaissance. Et l'histoire de ce musée est intéressante parce que il est, vous le voyez ici restauré, hein, après 10 ans de travaux, avec une fermeture très longue, avec des péripéties que je ne vous conterai pas parce qu'il nous faudrait toute la soirée. J'allais dire, donc, nous sommes tributaires, en fait, d'un plan d'organisation des musées d'ethnologie en France qui visait à avoir un grand musée de synthèse à Paris et des musées spécialisés en province. Bien sûr, le musée des marionnettes ne pouvait se trouver qu'à Lyon, la patrie de Laurent Mourguet que vous voyez là, c'est-à-dire la patrie de Guignol. Et vous voyez ici donc les trois personnages emblématiques du théâtre de Guignol, trois personnages créés par Laurent Mourguet lui-même. Donc, lorsque j'ai pris la direction de ce musée, eh bien, il était riche de collections qui s'étaient accumulées au fil du temps. D'abord des collections lyonnaises qui étaient bien sûr dans le musée d'histoire de Lyon, puisque les trois premières marionnettes de Guignol que je vous ai montrées tout à l'heure figuraient déjà à l'ouverture du musée d'histoire en 1921. S'y étaient ajoutées, lorsque on avait décidé donc d'y implanter le musée des marionnettes qui a ouvert ses premières salles en 1950, s'y étaient ajoutées donc des dépôts du musée des arts et traditions populaires et du musée de l'homme. Et comme on ne prête qu'aux riches, eh bien, en 1955, l'un des plus gros collectionneurs de marionnettes français qui s'appelait Léopold Dor donne sa collection à l'État pour qu'elle soit déposée donc à Lyon. Et ce sont d'un coup 600 marionnettes qui entrent parmi 1911 pièces. Et quelques années plus tard, il donnera donc au musée la totalité de sa collection. Alors vous voyez ici les marionnettes amiénoises, vous voyez ici une très belle petite marionnette de théâtre vénitien, vous voyez Aulnazar Shipton, qui est sans doute une des plus anciennes marionnettes anglaises qu'on connaisse. Vous voyez ici des marionnettes du Wayang Golette et du Wayang Kulit Javanais. Tout ça pour dire donc que sont entrées dans ce musée, que souvent les gens ont assimilé au musée des marionnettes à Gaines lyonnaises, des marionnettes donc du monde entier. Et bien sûr, au fil du temps, les dons, les legs, ce qui est la vie normale d'un musée, sont venus donc compléter cette collection accumulé par Léopold d'Or en quelques années, en gros entre 1927 et 1930. Une collection qui était tellement importante qu'en 1939, il y a donc une exposition de marionnettes au Palais Galliera et les trois quarts de l'exposition sont constitués par la collection de Léopold d'Or, ce qui fait qu'on lui demande d'ailleurs d'en faire le catalogue, ce qui est très précieux pour nous, vous l'imaginez. Mais ce qui est intéressant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire conservation et restauration, c'est qu'après avoir eu un engouement extraordinaire pour ces marionnettes, après les avoir donc présentées, après avoir envisagé de les rendre publiques, Léopold d'Or, après l'exposition de Galliera, ne s'en occupe pratiquement plus. Et elle reste en caisse de 1939, en gros, jusqu'à ce que, en 1955, eh bien, leur dépôt au musée Gadagne permette d'ouvrir les caisses. Et là, on se rend compte, premier avatar, si j'ose dire, et qui montre à quoi nous sommes confrontés par l'histoire même des objets, eh bien, une partie des marionnettes sont tellement infestées, tellement dégradées, qu'il y a un procès-verbal de destruction et que quelques-unes, donc, sont détruites à ce moment-là. Ça vous donne déjà le ton, hein, et l'idée que le facteur temps est capital, mais donc, encore une fois, l'histoire même des objets avant leur retrait au musée. On a évoqué très rapidement ce matin, et j'y reviendrai donc très rapidement encore, le fait que, bien sûr, les marionnettistes tournent avec leurs marionnettes, et même si les matériaux ne sont pas aussi difficiles, on y reviendra tout à l'heure, que ceux que vous avez évoqués, rappelés, tout, eh bien, le fait que les spectacles tournent, et je me souviens que la NERS disait à Strasbourg il y a 2 ans que les spectacles tournaient pendant 4 à 7 ans, eh bien, ces tournées, bien sûr, génèrent des dégradations importantes. Et puis, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, j'en parlais en aparté, les personnages souvent sont transformés, etc. Donc, quand les objets entrent au musée, eh bien, nous avons à gérer leur état et leur histoire. Voilà. Ça, c'est la base. Alors, je disais tout à l'heure qu'entre, donc, pardon, l'aigle, des marionnettes au fil du temps, et vous voyez par exemple ici le marionnettiste de Luis Valdés, et à côté, donc, j'évoquais à côté des marionnettes proprement dites, donc les autres objets du spectacle. Voici bien sûr une des toiles de fond caractéristiques du théâtre de Guignol, mais aussi, vous le voyez, des affiches comme celle qui provient ici du Tour du Monde, qui est une réutilisation par le théâtre Pitou d'une affiche du Châtelet. Et puis vous voyez ici le théâtre Guignol, début de Chaumont, au début du XXe. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'histoire des objets, mais il faut évoquer aussi l'histoire des musées. Je disais tout à l'heure, et vous avez vu la grande cour du musée rénovée, que le musée était installé dans un hôtel du XVIe et du XVIIe siècle. On a 5000 mètres carrés du XVIe et du XVIIe siècle. C'est très beau. Sauf que, quand je suis arrivée encore, c'était en octobre 1994, voilà comment j'ai trouvé, par exemple, la façade du théâtre Pitou, hein, qui était dans une partie de l'hôtel de Gadagne, qui n'avait jamais été restaurée. Et vous voyez les conditions de conservation. Je ne vais pas vous faire de dessin Voilà. Les objets qui étaient, non pas donc dans ces endroits inavouables que personne ne voyait, mais ceux qui étaient dans les salles. Voilà quelles étaient les salles de marionnettes installées donc en 1950. Elles n'avaient pas bougé depuis cette date, c'est-à-dire que toutes les pièces qui avaient été donc éclairées pendant plus de 30 ans étaient évidemment insolées, vous l'imaginez. Quant aux dispositifs de présentation, ils étaient tels que la plupart avaient subi des déformations. Ici, vous voyez par exemple les ombres turques ou les ombres thaïes. Elles étaient éclairées directement par derrière et certaines peaux avaient même brûlé contre les toiles qui leur servaient de fond. Mais là où les choses se compliquent, c'est que vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde et ne pas pour autant réussir la conservation. J'ai montré tout à l'heure des réserves qui n'en étaient pas avec la façade du théâtre Pitou. Je vous montre ici une réserve qui, elle, avait été aménagée spécialement dans les années 70 pour recevoir les marionnettes, notamment les marionnettes à tringles. Et que voyez-vous ? Ces réserves avaient fait l'objet à l'époque d'une publication pour les conservateurs parce qu'elles semblaient exemplaires. Or, les marionnettes à tringles, vous le voyez, étaient toutes dans des sacs en craft. Et là, je ne vous apprendrai rien, surtout à ce moment où il n'y avait pas de craft neutre, les dégâts que pouvait poser déjà l'acidité du craft. Mais il fallait voir que chaque manipulation était un danger pour la marionnette, puisque quand on sortait une marionnette d'un sac, bien entendu, le costume se trouvait déplacé, frotté, on avait toutes les peines du monde à ne pas les abîmer en les sortant. Et puis le poids de la marionnette elle-même, donc, déformait les marionnettes. Ce qui veut dire aussi qu'il nous faut, et là c'est la règle, j'en parlais aussi en aparté tout à l'heure, il nous faut être très humbles quand nous intervenons, que ce soit en conservation ou en restauration, parce que avec les meilleures volontés du monde, à un instant T, on n'est pas sûr d'avoir eu le bon geste, la preuve. Les décors, vous le voyez, et là on avait déjà commencé à mettre un peu d'ordre, étaient les uns contre les autres, et donc vous imaginez, les couches picturales des différents décors s'abîmaient. Et ce que vous voyez des planches en hauteur, sur ces planches étaient les toiles de fond. Alors, les planches, c'est ce que j'avais fait mettre tout de suite en arrivant, parce qu'on avait juste, quand je suis arrivée, les tuyaux, vous voyez, en métal, et donc les toiles de fond s'étaient déformées entre deux tuyaux, si j'ose dire, de métal. Bref, tout ceci m'a amené, lorsque j'ai dû écrire pour cette grande restauration qui vient de se terminer, ce que nous appelons dans notre jargon de conservateur le projet scientifique et culturel, bien sûr, il nous fallait faire un état des lieux, et j'ai donc demandé ce rapport à l'IRAP, donc, qui est l'Institut de Restauration et de Recherche Archéologique et Paléométallurgique, donc dirigé par Florence Bertin, de me faire donc un état sanitaire des collections et du bâtiment pour pouvoir commencer une véritable étude du projet culturel, puisque dépendait de ce projet culturel, bien sûr, ce dont j'allais disposer pour ce musée de la marionnette, et d'autre part, me permettre de faire un cahier des charges pour les architectes et envisager ce qu'on a appelé le chantier des collections, à côté, bien sûr, du chantier du bâtiment. Alors, sur la base du diagnostic de l'IRAP, qui bien entendu nous montrait que la quasi-totalité de nos collections était infestée, qu'une bonne partie était à restaurer, etc., ce qui ne vous étonnera pas avec les photos que je vous ai montrées séparément. Donc, ce qui nous a amené à mettre en route d'abord les lieux, parce qu'il nous fallait pouvoir travailler et donc avoir des lieux adaptés, que les marionnettes, par exemple, infestées ne contaminent pas celles qui ne l'étaient pas, etc. Bref, que nous mettions en place ce chantier des collections avec un continuum, après avoir donné donc pour les architectes qui commençaient à travailler donc les recommandations d'usage pour avoir dans le futur musée, à la fois dans les réserves, à la fois dans les salles ouvertes au public, un environnement qui ne soit pas nocif pour les collections. Ce qui n'est pas si évident que ça, parce que bien entendu, de la stabilité, par exemple, du climat dépend la conservation pour des objets qui, pour la marionnette, sont pratiquement tous des objets organiques, c'est-à-dire les plus sensibles au climat, mais ça je laisserai les restaurateurs peut-être en parler mieux que moi. Et là aussi, les choix sont des choix cruciaux et fondamentaux. Quand vous voyez ça, vous vous dites, climatisation, aujourd'hui, on sait ce que c'est que la climatisation. Sauf que la climatisation peut parfois être catastrophique. Moi, je me souviens de m'être retrouvée à Ajaccio, peu de temps d'ailleurs après l'inauguration du musée des Beaux-Arts, où il faisait 40 degrés dehors et où la clim était en panne. Je ne sais pas si vous voyez, sur des primitifs italiens en bois, ce que ça peut donner. Voilà. Hein? Et quand vous passez en quelques heures, donc, de 16 degrés à 40. Voilà. Donc, ce sont tous ces aspects, vous voyez, qui impliquent des choix, qui sont des choix cruciaux. D'autre part, la climatisation, on le sait, peut parfois aussi amener à des infestations. Bref, admettons qu'elle soit parfaite et on a opté donc pour une climatisation, j'allais dire, relativement légère pour éviter justement tout contraste. Mais c'est déjà un choix. Quant à la lumière, bien sûr, on connaît bon, les contraintes, 50 lux maximum, la protection contre la poussière, la formation, la manipulation, bref, tout ça doit entrer dans le cahier des charges des architectes pour que, y compris par exemple, normalement les vitrines permettent des manipulations qui ne soient pas dangereuses pour les objets. Mais notre chantier a commencé tout bêtement par ce qui est l'opération la plus simple. Vous le voyez ici, par exemple, le dépoussiérage avec la micro-aspiration, hein, c'est-à-dire qu'on prenait un objet, donc on le récollait, hein, c'est-à-dire déjà savoir à quoi on a affaire, on a numérisé, informatisé dès qu'on l'a pu, parce que comme ce chantier était très long, on a commencé à un moment où la numérisation n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, et donc au début on s'est contenté d'informatiser, donc numérisation, informatisation, et bien sûr désinfestation, donc voici pour le dépoussiérage, et voici le conditionnement qu'on a mis en place pour cette fameuse désinfestation qu'on a faite donc par anoxie, c'est-à-dire par privation d'oxygène, où tous les organismes vivants sont tués, donc tous les micro-organismes, donc insectes, champignons, etc. À ce moment-là, on était en 2001 ou quelque chose comme ça, ou 2002, on avait ces grosses bulles que vous voyez là, qu'on a montées, puisque la collection entière du musée, la collection organique, a été passée en anoxie, avec un système donc d'azote qui chassait l'oxygène. Depuis, bien sûr, le musée s'est équipé d'un appareillage beaucoup plus léger qui permet précisément au musée de ne plus avoir à faire appel, comme on l'avait fait à ce moment-là, à des sociétés spécialisées, et qui permet justement une désinfestation permanente des objets qui sortent ou qui entrent du musée pour éviter toute contamination. Mais le gros problème restait du stockage, puisque nous avons plus de 2000 marionnettes, par exemple, et que bien entendu nous n'allons pas, d'abord pour des raisons de conservation puisqu'il faut un turnover, mais aussi pour des raisons tout simplement de place, présenter la totalité de la collection. Donc il nous a fallu trouver un moyen de stocker les marionnettes sans qu'il y ait toutes ces déformations que j'évoquais tout à l'heure. Alors, tout ça était très compliqué. Bon, j'ai commencé par faire tout simplement la tournée des musées qui possédaient déjà des marionnettes en me disant qu'ils avaient peut-être trouvé la solution. Puis chaque conservateur me disait ben, qu'il cherchait, bon, bien, on a cherché ensemble. Hein. Et surtout, une jeune étudiante de l'IFROA m'a demandé si elle pouvait travailler sur des marionnettes vénitiennes du 18e. J'ai sauté sur l'occasion pour dire oui, bien sûr, et donner en sujet théorique, justement, le stockage des marionnettes et leur emballage. Bon, le résultat du sujet n'était pas encore totalement satisfaisant. Donc, Ça fait l'objet après donc d'un sujet de fin d'étude à l'école du Louvre, puis avec justement l'IRAP et un certain nombre de restaurateurs, nous avons mis au point ce stockage que vous voyez là pour ce qui est des marionnettes à gaines, des marionnettes à tringles et des marionnettes à fil, c'est-à-dire ces grands bacs en polypropylène neutre, qui sont en fait des bacs qui sont souvent utilisés pour le transport des aliments, qui sont aux normes européennes, qui sont gerbables, hein, et vous les voyez là dans les réserves provisoires, vous les voyez dans les nouvelles réserves où on a pu les entasser sans avoir, vous voyez, de problème puisqu'ils sont gerbables et qu'on peut tirer chaque bac sans abîmer les marionnettes. Alors, pour ne pas abîmer les costumes, les marionnettes sont bourrées de papier de soie et donc ils sont sur un lit de mousse imputrescible et la tête est tenue donc par cette mousse, ce qui fait que on peut les déplacer sans problème, les empiler sans problème, les transporter là où on veut. Ça, c'est vraiment, je vous le dis, sur le plan pratique. Alors, comment ça s'avérera en termes de conservation à la longue, encore une fois, je suis très prudente, mais pour l'instant, c'est très commode et on a mis donc des observations et des photos sur chacune. Donc, les décors ont fait l'objet de portefeuilles que vous voyez, comme ceux que vous voyez là pour les tableaux, ce qui permet de ne pas abîmer les couches picturales. Et nous avions le problème alors des toiles de fond, et voilà ce que nous avons imaginé en nous inspirant des magasins de textiles, c'est-à-dire des grands rouleaux que l'on peut donc dérouler, et voilà, on a commencé, vous voyez, à mettre les premières toiles sur ces rouleaux, qu'on a allégés justement en les perçant. Voilà. Alors, dans les salles, les marionnettes à gaines sont présentées sur des bouteilles, tout simplement, avec les bras garnis de mousse. Les marionnettes à tiges sont bien entendu suspendues, mais leur poids est allégé soit en touchant le sol, soit par un soclage intérieur au costume. Voilà nos petites marionnettes vénitiennes que vous retrouvez dans les salles. Alors, là, j'ai mis quand même une photo de l'exposition Chenet, puisque nous avons fait une exposition Chenet, et vous voyez donc la présentation des marionnettes à fil. Et puis, ensuite, je vais passer très rapidement sur les photos. Je vous ai mis quelques photos des dégradations que nous avons trouvées, et pour évoquer donc cette fois-ci non plus la campagne de stockage, d'emballage, d'imagination, donc des conditions de conservation et en réserve et dans les salles, mais cette fois-ci la campagne de restauration, puisque pour cette restauration complète du musée, nous avons fait travailler plus de 50 restaurateurs sur 1700 objets. Et tout ceci soumis bien sûr au code des marchés publics, donc je ne vous fais pas de dessin sur ce que ça représente, mais vous voyez ici les dégradations les plus courantes donc sur les collections anciennes. Vous avez vu donc d'abord l'incompatibilité, vous l'avez vu, des matériaux entre eux, donc le bois incompatible normalement avec les tissus, le fer incompatible avec le bois, mais tout ça c'est, j'allais dire, le quotidien de la marionnette traditionnelle. Voilà, donc ça je passe vite parce que je pense que les restaurateurs vous en parleront mieux que moi, mais ça vous donne une idée des opérations. Ah, j'arrive pas à voir les images en entier. Alors, sur les marionnettes contemporaines, le problème, bon, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, ce sont les problèmes des plastiques, mais là, je pense qu'il va falloir faire travailler sérieusement les chimistes sur les moyens d'intervenir. Nous, sur les, par exemple, les marionnettes de Valdès, pas le marionnettiste que vous avez vu, mais nous avons un Pierrot de Valdès qui était complètement bourré par une mousse qui commençait à couler, voyez, qui s'était séchée, qui était devenue pulvérulente à certains endroits, qui d'autres, au contraire, se liquéfiaient. Donc, il a fallu carrément malheureusement, enlever cette mousse qui commençait à endommager les textiles. Mais vous voyez que là, ce sont un dialogue permanent entre conservateurs et restaurateurs qui s'instaure pour savoir jusqu'où on va aller dans la conservation pour ne pas dénaturer complètement l'objet lui-même. Et ce même dialogue, bien sûr, est indispensable pour
ce... Vous me voyez venir.
Comment ?
Vous me voyez venir.
Oui, tout à fait. Ce même dialogue est indispensable pour ce qui concerne également le... Du coup, je suis déconcentrée.
Excusez-moi, pardon. Tranquillement terminé.
Oui. On y arrive, je suis juste au bout. Donc, ce dialogue est là aussi pour restituer l'histoire de la marionnette elle-même, puisque faut-il garder le galon qui fait que l'on sache que le marionnettiste a transformé tel personnage en autre personnage, etc. Mais pour ce qui concerne la restauration proprement dite, et pour revenir donc à la question posée, ce qui est important également, c'est que dans le cahier des charges des restaurateurs, nous avions bien noté que justement cette histoire de l'objet était pour nous capitale et qu'il ne s'agissait pas de restaurer un Rembrandt dans son état initial, mais bien de restaurer la marionnette de telle façon qu'elle soit bien sûr visible et esthétiquement acceptable par les visiteurs du musée, mais qu'en même temps, elle garde justement ses traces d'usage et ses traces de son histoire. Donc ça, c'était la base de ce que nous avions donné comme cahier des charges aux restaurateurs. Alors, là où les problèmes se compliquent, c'est bien sûr, et nous l'avons entendu ce matin, lorsqu'il s'agit de conserver alors tout ce qui est audiovisuel, qui est venu s'ajouter à nos collections de marionnettes proprement dites, d'accessoires et de bibliothèques, affiches, etc., qui entrent dans les catégories de conservation dont nous avons l'habitude dans les bibliothèques ou dans les musées, mais nous sommes beaucoup moins habitués à la conservation de tout ce qui est audiovisuel, et je ne parle pas de ce que j'ai entendu ce matin sur le virtuel. Comment allons-nous conserver tout cela ? Mais ce qui est sûr, c'est que quand je disais que nous sommes soumis à la matière, vous le voyez, puisque nous avons à travailler avec elle pour pouvoir justement assurer la pérennité, puisque nous sommes les garants de la pérennité absolue, nous sommes inaliénables et imprescriptibles. Donc, comment lutter contre le temps et pour l'éternité ? Nous nous y employons, et cette lutte passe même dans le projet culturel lui-même, puisque pour assurer justement ce turnover qui n'existait pas et qui nous a valu donc d'hériter d'une collection en partie insolée, eh bien nous avons décidé de faire un musée cyclique. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a fait une première présentation pour l'inauguration donc en juin 2009, qui est une présentation basée sur la marionnette traditionnelle, et donc la deuxième présentation, bon, moi j'ai lâché les rênes, bon, mais je ne sais pas ce que fera mon successeur, mais il était prévu que ce soit donc la marionnette contemporaine, parce que c'était aussi l'occasion de montrer les marionnettes, et je pense à Jean-Paul Hubert par exemple dans la salle, de montrer des marionnettes contemporaines, ou Jacques Chesnais par exemple, montrer des marionnettes modernes et contemporaines, et aussi continuer notre quête et notre collecte sur le théâtre contemporain, ce, bien sûr, en liaison étroite avec universitaires et artistes. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que quand même, donc, ces nouvelles technologies nous permettent, même si nous avons beaucoup d'objets en réserve, d'en faire profiter tout le monde au centre de Dog, vous l'avez aperçu, mais dans les salles aussi. Vous voyez là ces coffres qui sont inspirés des coffres de marionnettistes qui sont dans les salles et qui nous permettent de diffuser nos archives, des captations de spectacles, voire des spectacles actuels pour montrer comment évolue la marionnette. Point barre, je m'arrêterai là parce que j'ai été trop longue.